Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Dans un instant, retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis, jusqu'à quand l'écologie sera-t-elle souriante? L'expression est de Yannick Jadot. Ne faudrait-il pas changer radicalement nos modes de vie, nos systèmes de production, le système économique pour éviter la catastrophe annoncée par certains? Et pour le dire très simplement, peut-on encore faire appel à la responsabilité de chacun d'entre nous? Ou faut-il maintenant en passer par la loi pour interdire certains comportements, certaines pratiques, certaines des activités qui ont le plus d'impact sur l'environnement? À quel moment faudra-t-il cesser de sourire? Nous en débattrons avec Daniel Cohn-Bendit. Mais tout de suite, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le grand face-à-face avec la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver les amis. La rentrée politique a eu lieu comme la rentrée des classes. Je ne sais pas ce que les élèves ont en tête, mais les politiques ont la tête au municipal du printemps prochain. Et notamment pour la conquête de Paris. Paris à tout prix, c'était le titre d'un film. Et c'est en tout cas l'espace où l'on a vu s'exprimer la première dissidence au sein de La République En Marche avec cet homme, Cédric Villani, qui annonçait ceci.
J'ai la conviction que nous pouvons refaire de Paris cette ville accueillante, quelle que soit notre provenance, notre condition, nos ambitions. C'est pourquoi je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
C'est pas aussi beau que c'est notre projet, mais la voix a été poussée par le mathématicien et député La République En Marche qui se présentera en dissident pour conquérir Paris face donc à Benjamin Griveaux qui lui a été désigné par La République En Marche. Que vous inspire cet épisode, Gilles ?
Je crois que cette dissidence, elle a des effets politiques dont certains sont certains ou immédiats. C'est que, à l'évidence, c'est une mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux, dont l'image était déjà dégradée, dont l'entrée en campagne a été difficile et qui voit en plus son espace réduit. Mais c'est une mauvaise nouvelle aussi pour La République En Marche, qui à Paris, évidemment, ce n'est pas rien, se retrouve avec deux candidats.
C'est le cœur du réacteur électoral
au parti. Mais c'est de surcroît une jurisprudence pour les autres villes dans lesquelles il y a déjà des difficultés de désignation. Donc, l'effet certain, c'est celui-là. Mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux, mauvaise nouvelle pour La République En Marche.
Bonne nouvelle pour Anne Hidalgo.
Ce faisant, bonne nouvelle pour Anne Hidalgo. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus incertain, mais dont on peut avoir l'intuition, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de candidats, il y a peut-être trop de candidats, et donc il va falloir attendre avant que l'offre électorale soit fixée. Et puis il y a quelque chose de très incertain sur Villani lui-même, c'est quel va être son positionnement, quel va être son projet, quelles vont être ses alliances, à quel électorat va-t-il s'adresser. Tout cela, pour l'instant, on ne le sait pas du tout.
Natacha Polony.
Je pense que il y a en effet, enfin, la première bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, c'était la désignation de Benjamin Griveaux par La République En Marche, qui était quand même un superbe cadeau. Avec en plus cette désignation à l'unanimité, ce qui était aberrant dans le sens où c'était une forme d'humiliation pour un Cédric Villani qui avait joué le jeu véritablement et dont on pouvait sentir qu'il avait une ambition et une ambition extrêmement construite. Ensuite, ce qui est problématique, c'est le fait de voir en effet Cédric Villani prendre Emmanuel Macron à son propre jeu. C'est-à-dire lui rappeler que le macronisme avait pour promesse principale, même à peu près la seule puisqu'il n'y avait pas vraiment de programme ni quoi que ce soit, mais pour promesse principale de mettre fin à cette république des partis, à ces arrangements dits de l'ancien monde, et que finalement, la désignation de Benjamin Griveaux, elle s'inscrivait là-dedans.
L'appareil politique, La République En Marche, fonctionne comme les partis de l'ancien monde.
Mais bien entendu, et Cédric Villani fait du macronisme et envoie le macronisme à la figure d'Emmanuel Macron.
Gilles. Alors, pour partie, Natacha a raison. Oui, c'était l'un et l'autre des outsiders. Oui, l'un comme l'autre était dans la critique du jeu politique existant. Oui, l'un comme l'autre se sont affranchis de ceux qui les avaient fait naître, François Hollande d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre, mais il y a au moins deux différences. Il y a dans la démarche, Cédric Villani a accepté cette procédure avant d'en refuser le résultat. Et Emmanuel Macron n'a pas participé aux primaires de la gauche. Et puis par ailleurs, la situation politique aujourd'hui à Paris, je crois, est très différente de la situation politique nationale de l'époque.
Nous sommes bien d'accord.
Elle est très différente, malgré tout, la situation politique à Paris depuis l'élection présidentielle, c'est que La République En Marche y est très majoritaire. Les Français, les Parisiens ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron, pour les candidats de La République En Marche aux législatives et aux dernières élections européennes, massivement pour la liste La République En Marche. Donc est-ce que les jeux sont faits? Ils ont déjà gagné, au fond, la bataille Paris à tout prix, Gilles?
Non, je ne le crois pas. Ce que je vais dire pour Paris le vaut pour beaucoup d'autres villes. Personne aujourd'hui ne peut dire comment ces forces nationales que vous avez évoquées et qui sont justes et qu'on a vu encore aux élections européennes, comment ça se traduit au niveau municipal dans lequel l'implantation, le travail des sortants, leur relation personnelle avec le maire a une importance qui n'existe pas pour les élections nationales.
Non, mais on a une sociologie parisienne qui est assez claire, c'est-à-dire que toutes les classes possédantes qui avaient voté massivement pour François Fillon en 2017 ont voté massivement pour La République En Marche aux européennes, c'est-à-dire pour les défenseurs de l'ordre social face à la révolte des Gilets jaunes. Pendant que ceux qui avaient voté massivement pour Emmanuel Macron, parce que tout l'Est parisien avait voté pour Emmanuel Macron en 2017 sur le thème c'est une option de gauche novatrice, etc. On votait pour les écologistes pour ne pas donner un quitus à un Emmanuel Macron qui a perdu sa jambe gauche.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Aujourd'hui, toutes les questions sont sur la table de cette réforme. Et donc, on ne va pas dire « on concerte » pour dire, en fait, on a déjà la solution à la concertation. On va en fait négocier avec les organisations syndicales. Les principes qui sont intangibles, c'est qu'on souhaite que ce régime futur soit un régime par répartition. Mais à quel Français vous allez faire croire qu'avec l'allongement de la durée de la vie, on va travailler moins longtemps?
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée du grand entretien jeudi à 8h20 sur notre antenne. Elle était interrogée donc sur la question de la réforme des retraites, avec l'invitation à lire très attentivement le rapport Jean-Paul Delevoye, haut commissaire qui vient de faire son entrée au gouvernement et qui est donc en charge de négocier cette retraite. On a entendu les mots concertation, négociation, syndicat dans la bouche d'une ministre d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire, pour le coup, qu'il y a un changement de méthode, Gilles Finkelstein?
Sur ce sujet-là, peut-être pas, parce que s'il y a un sujet sur lequel, depuis l'entrée en fonction du président de la République, il y a eu un travail de concertation, c'est plutôt les retraites que sur les autres. Jean-Paul Delevoye, depuis des mois, a fait ce travail de concertation avec les syndicats. Là, ils le poursuivent pour des raisons qui sont à la fois des raisons tactiques pour essayer de gagner du temps par rapport au municipal, mais pour des raisons de fond qui sont des raisons qui sont estimables. C'est un sujet sur lequel qui engage le cœur du pacte social et pour lequel il serait souhaitable d'essayer de trouver un compromis plus large que seulement celui de la majorité.
Sujet explosif, si on se souvient des grandes manifestations sous Nicolas Sarkozy lors de la précédente grande réforme des retraites, Natacha.
Pour le dire un peu plus brutalement que Gilles, Sibeth Ndiaye a sorti les avirons jeudi matin sur France Inter, dans le sens où elle-même était incapable de dire sur quelle base allait se passer cette concertation qui faisait suite à une concertation, puisque déjà, tout le travail de Jean-Paul Delevoye, c'était de faire une concertation. On pensait que c'était fini. Donc là, on repart en concertation. Bien sûr qu'il y a le côté tacticien, mais il y a derrière cela aussi une difficulté à dire les choses clairement. C'est-à-dire qu'un collectif publié par Le Parisien, le collectif Réforme des retraites, a rechiffré par exemple les cas concrets dont parlait l'équipe de Jean-Paul Delevoye. Eh bien, le résultat, c'est que, en gros, par rapport à la génération précédente, ceux qui partiraient à la retraite avec cette réforme perdraient 20%. Ça fait quand même très mal.
Oui, je crois que pour l'instant, par définition, puisqu'on n'en est pas encore au projet de loi, on ne connaît pas les modalités précises. Moi, je crois.
Installe malgré tout l'idée qu'il faudra cotiser plus longtemps.
Moi, je crois d'abord, j'ai un intérêt sur le principe de cette réforme. C'est-à-dire qu'on reste dans la répartition, mais le système par points permet d'améliorer la justice à l'intérieur d'une génération et d'être plus adapté à la mobilité des carrières. Ce sur quoi il faut être très vigilant, et ça va être l'objet des négociations et de la concertation citoyenne, et donc on verra au bout c'est quelles sont les modalités précises, quel système de solidarité et quel système de financement.
Et je compte sur votre vigilance puisque nous aurons évidemment l'occasion de discuter de ce sujet important et qui nous concerne tous. À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Daniel Cohn-Bendit.